Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
On est face à un casse-tête. Si nous avons à choisir entre une ouverture de gymnase et louer des chambres d'hôtel, on va privilégier l'hôtel.
La neige est là, le froid aussi ce matin. Perturbations sur les routes, le ramassage scolaire et dans les villes, cette question. Comment mettre à l'abri les SDF sans créer de risque de foyer de Covid? Elle avait embrasé le secteur du transport routier. L'écotaxe va-t-elle faire son retour? Proposition examinée en Conseil des ministres ce matin, uniquement pour les camions étrangers. Le gouvernement ne veut plus qu'on puisse parler de consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Après la libération de la parole sur les violences sexuelles, réforme à venir aussi des délais de prescription. Dans ce journal également, Marine Le Pen au tribunal pour avoir diffusé des photos d'atrocités commises par l'État islamique. Notre dossier sur la légalisation en France de la production de cannabidiol dérivé du cannabis, c'est ce que réclame un rapport parlementaire. Et puis les salles obscures restent fermées, mais on connaîtra aujourd'hui les nommés pour les Césars 2021.
Juste après ce journal, Total qui change de nom, Total Énergie au pluriel, c'est plus qu'un symbole. Éclairage éco, Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouette. Une Ligue des champions plus longue, avec plus de matchs, plus de clubs français notamment. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça va ravir les enfants. Les bonhommes de neige vont certainement fleurir un peu partout aujourd'hui. Mais sur les routes, c'est déjà compliqué. La neige est bien là sur les 31 départements en vigilance. Laurent Cabrol nous le disait. La circulation des poids lourds interdite dans toute l'Île-de-France. Et pour les voitures, Caroline Baudry, ça glisse déjà. Vous êtes porte de Sèvres, au sud de Paris.
Oui, alors si le périphérique est déneigé et que la circulation y est plutôt fluide, les rues de Paris et des communes alentours sont-elles moins praticables? Sur une fine couche de neige, les véhicules roulent au pas. Écoutez, Shadia, elle est partie en voiture avec beaucoup d'avance ce matin.
C'était assez folklorique. Sur les petites routes, c'était pas salé, mais arrivé sur la A3 et ensuite le périphérique, c'était déjà salé. Ça glissait beaucoup, exactement. Puis les gens sont d'autant plus stressés, donc ils ont peut-être pas tous les réflexes.
Le ramassage scolaire est suspendu aujourd'hui dans 4 départements d'Île-de-France, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Dans ces 3 derniers départements, les cours à distance sont privilégiés. Notez que la N118 est fermée depuis hier, 21h. Rappelez-vous, en 2018, lors d'un important épisode neigeux, près de 2000 personnes avaient été bloquées par la neige. Ils avaient dû passer la nuit sur cet axe routier.
Un point de situation signé Caroline Baudry.
Et la ministre du Logement a déclenché le plan Grand Froid dans plusieurs départements pour héberger les sans-abri, évidemment menacés par ces températures glaciale.
Avec une difficulté supplémentaire en ce moment, les contraintes liées au Covid, Jean-Sébastien Soldaini.
Le défi tient en une phrase desserrée pour éviter les clusters, c'est-à-dire mettre le plus d'espace possible entre les sans-abri hébergés, 4 mètres carrés par personne au minimum, dans un centre spécialisé ou dans une auberge de jeunesse. Mais avec l'épidémie, Sabrina Boulfra, directrice du service d'accueil et d'orientation de Paris, doit faire des choix, quitte à payer plus cher.
On est face à un casse-tête. Si nous avons à choisir entre une ouverture de gymnase et louer des chambres d'hôtel, on va privilégier l'hôtel. Donc on a quelques ouvertures de gymnase, mais par contre, effectivement, on peut accueillir beaucoup moins de personnes qu'on aurait accueillies les années précédentes.
Les gymnases, pourtant déserts en ce moment, sont un dernier recours. Le risque de cluster y est trop important, mais malgré ces contraintes, le grand froid sera plus facile à gérer cette année, confie un conseiller ministériel. Le nombre de places en hébergement d'urgence n'a jamais été aussi élevé en France. 200 000 chaque jour, c'est 50 000 de plus que l'an dernier. À la même époque, des lits créés pour faire face au premier confinement est encore disponible aujourd'hui.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus dépasse désormais les 80 000 morts en France. Presque 2 millions de personnes ont reçu la première dose de vaccin. L'état d'urgence a été prolongé cette nuit par les députés jusqu'au début du mois de juin.
Alors qu'en Conseil des ministres, ce matin, revient l'idée d'une écotaxe, une taxe poids lourd comme celle qui avait fait flamber la colère des bonnets rouges en 2013. Aurélien Fleurot, il y a moins de risques cette fois-ci, à moins de voir des bonnets rouges hongrois ou polonais, puisque la mesure réclamée par de nombreux élus ne concernerait que les camions étrangers. Hein.
Oui, cette écotaxe poids lourd figure dans un rapport publié aujourd'hui, remis au ministère des Transports et qui met sur la table plusieurs propositions pour un financement plus durable des mobilités. Les habitants de grande couronne étant souvent les parents pauvres avec peu d'autres options que la voiture individuelle pour se déplacer. Pour François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne à l'origine de ce rapport, cette écotaxe serait une mesure écologique et patriotique.
Aujourd'hui, 40% des poids lourds sont immatriculés à l'étranger. Et que sur ces poids lourds, plus de 75%
ne font pas leur plein en France. Cela signifie qu'ils utilisent et qu'ils usent nos infrastructures sans payer le coût de la rénovation. Et l'écotaxe, c'est un moyen intelligent de faire contribuer ces véhicules à l'étranger. J'espère que le gouvernement ouvrira cette option et permettra aux territoires de s'engager dans ces expérimentations.
Le ministère des Transports étudie cette piste de près et l'idée ne vient pas uniquement de régions parisiennes. L'Alsace y est aussi favorable afin d'empêcher le passage sur les routes du département de nombreux camions venus d'Allemagne, où là, ils doivent s'acquitter d'un impôt poids lourd.
Merci Aurélien Fleureau. La politique ce matin, c'est aussi le report des élections régionales. Pour raisons sanitaires, elles sont désormais prévues les 13 et 20 juin prochains.
Sur le front de la lutte contre les violences sexuelles et les violences faites aux enfants, ces propositions du gouvernement ce matin, on ne pourra plus dire qu'un mineur de moins de 15 ans est consentant.
C'est ce que dit sur Europe 1 le secrétaire d'État chargé de l'enfance, Adrien Taquet. Ce sera désormais automatiquement considéré comme un crime. Adrien Taquet qui veut aussi, écoutez-le, réformer les délais en matière de prescription.
La philosophie, c'est d'assurer une égalité de protection pour toutes les victimes d'un même auteur. Dans ces affaires-là, il y a souvent plusieurs victimes. Et ce qui se passe, c'est que souvent, la prescription est passée pour une grande partie d'entre elles, mais pas pour une. Et donc, il y a le procès pour simplement une des victimes et les autres sont là uniquement comme témoins. C'est une situation qui n'est pas supportable. Nous allons adopter un mécanisme qui s'appelle la prescription glissante. Et en fait, c'est-à-dire que le mécanisme de prescription de la dernière victime va s'appliquer à l'ensemble des victimes du même auteur et ça va permettre à l'ensemble de ces victimes de pouvoir bénéficier d'un procès.
Le secrétaire d'État à l'enfance au micro hier soir de Julien Bugier sur Europe 1, alors que le directeur de Sciences Po, Frédéric Millon, annonce lui sa démission. Ce sont les suites de l'affaire Olivier Duhamel. Frédéric Millon reconnaît qu'il était au courant des accusations contre le politologue qui dirigeait la Fondation nationale des sciences politiques et qu'il n'en a rien dit.
Dans une toute autre affaire, Marine Le Pen et Gilbert Collard comparaîtront au tribunal tout à l'heure, tribunal de Nanterre, pour avoir publié des photos de crimes de Daesh. C'était juste après le 13 novembre, Chloé Triomphe.
Oui, Marine Le Pen entendait alors protester contre le rapprochement fait dans un média entre son parti et le groupe terroriste Daesh. Montrer ces photos, explique aujourd'hui son avocat, Maître Dassa Le Deste, c'était une façon de protester.
Marine Le Pen n'est pas présente sur le plateau et elle répond immédiatement en tweetant les trois photos qui sont emblématiques de la barbarie de Daesh. Et elle dit, voilà, soyons sérieux deux minutes, Daesh, c'est ça. Et effectivement, elle diffuse trois photos qu'on a tous vues, épouvantables, des pires massacres de l'État islamique et qui montrent également, en parallèle et en creux, l'inanité et l'outrance de cette comparaison.
Mais la publication de ces clichés avait suscité un tollé et le parquet de Nanterre avait immédiatement lancé des poursuites contre Marine Le Pen pour diffusion de messages violents ou portant gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d'être vue par un mineur. Une infraction qui permet de demander une expertise psychiatrique de l'intéressé. Marine Le Pen ne s'y était pas rendue et dénonce une atteinte à sa liberté d'expression et un procès politique.
Chloé Triomphe.
7h08 sur Europe 1. Alors je vous pose cette question. Avez-vous déjà entendu parler du cannabidiol, le CBD?
Ce dérivé du cannabis qui se vend déjà en France sous certaines formes, comme des tisanes par exemple, des produits bien-être. Vous avez peut-être vu fleurir, c'est le cas de le dire, ces sortes de coffee shop à la française.
Et c'est notre dossier aujourd'hui. Bonjour Justin Morin.
Bonjour.
Un rapport parlementaire préconise une réglementation de ce marché qui pourrait rapporter gros, très gros. Déjà le CBD, précisément, qu'est-ce que c'est?
Alors le CBD, c'est une molécule contenue dans la plante de cannabis. Utilisée en tisane par exemple, elle a un effet relaxant musculaire, elle peut soulager des pathologies comme de l'arthrose ou des insomnies. Sa vente est légale sous certaines conditions. Rien à voir avec le THC, autre molécule du cannabis qui, elle, a bien un effet psychotrope. C'est ce THC qui a un effet planant, recherché par les consommateurs de cannabis. Sa vente est interdite en France.
Alors Justin, que recommande ce rapport parlementaire?
Il pousse le gouvernement à autoriser la production naturelle de CBD. Aujourd'hui, c'est interdit, ce qui fait qu'en France, la molécule est exclusivement produite en laboratoire ou alors ses fleurs sont importées depuis l'étranger. Ce qui fait qu'on passe à côté d'un marché énorme. Selon le rapport, cette filière CBD, de sa production dans les champs français à sa transformation, ça représente 1 à 3 milliards d'euros avec des milliers d'emplois à la clé. Jean-Baptiste Moreau est le rapporteur du texte. Il est député La République En Marche de la Creuse.
La production, elle est prête. Les producteurs sont dans les starting blocks. La France est un des derniers pays européens à ne pas avoir bougé. Donc c'est totalement incompréhensible puisque c'est reconnu officiellement par l'OMS. Ce n'est pas une drogue, le CBD. Donc on attend juste le feu vert de l'administration, c'est tout.
Et pourquoi est-ce que ça bloque?
Eh bien simplement parce qu'il y a toujours une crainte du côté de la Haute Autorité de Santé. Autoriser clairement le CBD, c'est envoyer un mauvais signal aux consommateurs de cannabis récréatif.
Dans la boutique, les arômes découvre à peine l'odeur des meubles neufs. Depuis son ouverture il y a tout juste 2 mois, Clément y achète chaque semaine 1 à 5 grammes de fleurs de CBD. Elles viennent du Luxembourg, saveur Royal Cheese.
Je le vaporise et parfois des infusions. Moi je l'ai pris surtout pour l'effet anxiolytique. Ça m'aide un peu à dormir, ça m'aide un petit peu à réfléchir.
Infusion, huile, crème pour les mains, barre chocolatée, des produits pour tous les goûts et merci pour tous les âges. Parmi les habitués, une retraitée venue acheter 4 paquets de tisane pour ses amis. Fini l'amalgame avec le cannabis, se félicite Bruno Massex, gérant de la chaîne Purple Store.
Depuis début septembre, on est à plus de 30% d'augmentation du chiffre d'affaires par mois. Ça se développe assez rapidement. J'ai tous les jours des personnes qui m'appellent pour savoir comment ils peuvent ouvrir une franchise ou exploiter notre concept de leur côté.
Face à un tel succès, certains buralistes proposent désormais eux aussi des fleurs de CBD. D'autres préfèrent attendre qu'il n'y ait plus aucun doute sur leur légalité.
Voilà, tout est prêt pour la production de ces fleurs de CBD, même le réseau de distribution, 300 à 400 magasins en France, comme nous le montre ce reportage de Zoé Pallier.
Alors une dernière chose, hein, Justin Morin, on entend dans ce reportage que des fleurs sont déjà en vente alors que c'est interdit. Comment ça se fait ?
Effectivement, c'est bien interdit, mais les vendeurs s'appuient en fait sur une décision de la justice européenne qui date de novembre dernier. Dans son arrêté, elle rappelle que le CBD n'est pas une drogue, que ces fleurs doivent être librement commercialisées. L'État français va donc bien devoir se mettre en conformité dans les prochains mois avec le droit européen.
Faut-il légaliser la production naturel de cannabidiol en France, dossier de la rédaction signé Justin Morin avec Zoé Pallier. À l'étranger, le deuxième procès en destitution de Donald Trump, jugé conforme à la Constitution par les sénateurs américains. Il s'est ouvert cette nuit avec la projection des vidéos de l'assaut violent du Capitole le 6 janvier. La présidente de la Commission européenne sur le grill, tout à l'heure, Ursula von der Leyen fera face aux eurodéputés qui demandent des explications sur les ratés de la stratégie vaccinale des 27. On y revient dans le journal de 8h.
Et puis enfin du cinéma pour terminer ce journal. Plus de 100 jours maintenant que les salles obscures sont fermées. C'est une cérémonie des Césars forcément perturbée qui se prépare.
On connaîtra à 10h ce matin la liste des nommés. Cérémonie prévue en principe le 12 mars. Ce sera aussi l'occasion, Mathieu Charrier, pour certains films de se relancer quand ils se sont fait couper les ailes à peine sortis en salle.
125 films français peuvent prétendre cette année à une nomination aux Césars. C'est une centaine de moins que l'année dernière. Parmi les grands favoris, Adieu les cons, comédie sociétale absurde signée Albert Dupontel, Effacer l'historique de Carverne et Delépine. L'amour destructeur et mélancolique de l'été 85 de François Ozon devrait aussi récolter quelques nominations, tout comme La Daronne, film dans lequel Isabelle Huppert joue les trafiquantes de drogue. Un film distribué par la société Le Pacte, pour qui ces Césars sont encore plus importants que les années passées, explique Jean Labadie, son directeur.
Pour les films, c'est extrêmement essentiel parce que ça permet de continuer leur notoriété. Dans le cas de La Daronne, le film vient de sortir en DVD et en VOD et donc lui donner une visibilité encore plus forte qui, j'espère, pourrait compenser un peu le manque à gagner qu'il y a eu sur le premier marché, c'est-à-dire celui de la salle.
Et parmi les autres favoris, Emmanuel Mouret et ses vicissitudes de l'amour dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Enfin, deux comédies pourraient également tirer leur épingle du jeu. Antoinette dans Les Cévennes avec Laure Calamy et son âne Patrick, ou Tout simplement Noir, film à sketch qui a signé l'été dernier un succès critique et public avec plus de 700 000 entrées dans les salles.
Mathieu Charrier, un mot de football et de la Coupe de France. Lyon, Lorient et Valenciennes sont les premiers qualifiés pour les 16e de finale après leur victoire hier soir pour leur entrée dans la compétition.
Merci Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et si on réhabilitait la campagne ? On parle souvent de France périphérique, de zones rurales désertiques, mais si le monde d'après était celui de la fin des métropoles ? C'est le pari de mon invité, Nicolas Hazard, entrepreneur spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Il publie « Le bonheur est dans le village », 30 portraits, 30 initiatives locales. Il sera l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Mais tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouette. Bon réveil à tous. 7h16 sur Europe 1. L'éclairage éco, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Ne dites plus à Total qu'il est un groupe pétrolier. Le géant français change de nom et c'est tout un symbole.
Oui, le symbole de la transformation phénoménale du marché de l'énergie et de celle de ce champion français qui a entrepris depuis plusieurs années déjà une diversification à marche forcée vers d'autres sources d'énergie. Total va donc s'appeler Total Énergie, énergie avec un S, car le groupe dirigé par Patrick Pouyanné est aussi un géant du gaz. Bien sûr, il est le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié, mais il est également producteur d'électricité électricité produite avec du gaz, mais pas seulement. Total est de plus en plus présent, en effet, dans les renouvelables, l'éolien et le solaire.
Des sources d'énergie qui, évidemment, lui permettent de réduire son empreinte carbone.
Vous avez raison, et ce changement de nom, c'est aussi le symbole de cette pression qui monte de la société civile et des investisseurs, de la bourse, des banques, qui se détournent des sociétés trop marquées pétrole ou charbon. De plus en plus de banques, par exemple, elles-mêmes soumises aux mêmes pressions, refusent désormais de financer des projets dans les énergies fossiles. Quant aux grands fonds d'investissement, ceux qui placent l'épargne de millions de gens dans le monde et qui font la pluie et le beau temps en bourse, eh bien, ils se détournent aussi des sociétés trop présentes dans le fossile au profit de tout ce qui est renouvelable. Voilà comment des groupes comme l'italien Enel ou l'espagnol Iberdrola, très présents dans le renouvelable, pèsent autant en bourse que Total pour des bénéfices très inférieurs. Au passage, Total, qui était la première capitalisation boursière à Paris il y a à peine 2 ans, se retrouve 5e aujourd'hui, derrière LVMH, L'Oréal, Sanofi et même Hermès.
Mais cette transformation de Total, elle est réelle ou c'est cosmétique pour plaire à la bourse, je veux dire?
Alors, elle est réelle si vous regardez où Total investit. 20% de ses investissements vont dans l'électricité et le renouvelable et les montants sont colossaux. 60 milliards de dollars d'investissement sur les 10 prochaines années. Total vise une production de 100 gigawatts en renouvelable à l'horizon 2030. Ça représente des dizaines de réacteurs nucléaires. C'est donc tout sauf cosmétique. Mais la transformation de Total sera lente. Le gaz et le pétrole pèseront encore au moins les 2/3, voire les 3/4 des revenus du groupe à cet horizon. Et d'une certaine façon, heureusement, parce que c'est justement grâce aux revenus du pétrole et du gaz que Total peut financer la transition énergétique. Cette transition, vous savez, il est facile d'en parler, mais rares sont ceux comme Total qui ont les moyens de la financer.
Merci Nicolas. Bah, je repense à une chronique, un éclairage éco cette semaine sur l'hydrogène. De tête, vous nous disiez qu'on était passé d'un investissement de l'État de quelques centaines de millions à quelques milliards, 7 milliards.
7 milliards, voilà.
60 milliards les investissements de Total. Ce sont ces questions d'échelle aussi qui jouent évidemment sur cette question des montants. 60 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Merci Nicolas Barré, il est 7h19. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
L'ONU réclame le retour de la démocratie au Myanmar. La réponse de l'armée, c'est d'investir et de saccager le siège de la Ligue pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi.
Oui, on sait depuis les Rohingyas que les militaires birmans se moquent de l'opinion des étrangers. L'ONU accuse les généraux de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Le Royaume-Uni et les États-Unis les ont sanctionnés. Eh bien, ça n'a pas nui à leur carrière ni à leurs affaires. Ça ne les empêche pas d'aller à Singapour ou à Munich se faire soigner. L'Amérique n'a guère de prise. La Russie en a un peu, mais évite de s'en servir. La Chine davantage, c'est le grand voisin trop puissant dont les généraux birmans se méfient. Mais pour l'instant, leur priorité, c'est d'étouffer la contestation.
Après 5 jours de manifestation, la répression s'accentue.
Oui, les manifestants sont pleins de vitalité, d'invention, de courage. La jeunesse fait le signe de ralliement avec les 3 doigts unis. Elle se croit à Hong Kong ou à Bangkok, elle se fait un film. En face, l'armée ne se laisse pas déborder. Après le canon à eau, les gaz lacrymogènes, puis les balles en caoutchouc, elle est prête à tirer dans le tas. Elle l'a déjà fait. C'est une armée de guerre civile qui a l'expérience du combat contre les minorités, toute une tradition de sauvagerie. Prenez son chef. Minaung Leng a écrasé une rébellion à la frontière chinoise, provoquant la fuite de 30 000 civils. C'est comme ça qu'il a gagné ses galons. Devenu chef d'état-major, il est responsable du nettoyage ethnique de 700 000 Rohingyas. S'il le fallait, il viderait la Birmanie de tous les Birmans. La seule des 135 ethnies du pays à rester en place sera toujours l'armée gardienne de la nation.
Elle a gouverné depuis l'indépendance, sauf ces 10 dernières années.
Elle en a fait une poubelle, un narco-État, ils l'ont pillé. Minaung Leng, quel aveu, se fait appeler président du conseil d'administration de l'État. Ayant ruiné le pays, les militaires ont fait une petite place aux civils, à Aung San Suu Kyi, auquel les Européens reprochaient d'être faibles avec les militaires. Quel aveuglement! Dans le monde tel qu'il est, quand les généraux corrompus tiennent l'économie, il n'y a pas de démocratisation. Les exemples sont légion, du Venezuela à l'Algérie, aux manifestants birmans de trouver l'antidote à ce poison.
Merci Vincent Hervouet, il est 7h21 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et tout de suite l'UEFA qui propose une nouvelle formule de la Ligue des Champions. Mais pour Virginie Fulpin, en réalité, ce sont les clubs qui décident de tout désormais. L'édito sport dans un instant. Il est 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
L'UEFA prépare une nouvelle formule de la Ligue des Champions à partir de 2024, c'est-à-dire demain 2024. Il y aura plus de clubs,
plus de matchs dans un premier tour plus long. Pour vous, cette nouvelle formule prouve que l'UEFA ne décide plus de rien, ce sont les gros clubs qui font la loi du foot.
C'est désormais une certitude, le football européen ne va pas profiter de la crise pour se réformer et chercher un nouveau souffle. Il va accentuer les inégalités, chercher plus de profits pour les grands clubs et se moquer éperdument de la glorieuse incertitude du sport. C'est pas le nouveau monde qui nous attend, mais le même en pire. Regardons donc ce que l'UEFA prévoit pour cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. 36 équipes vont participer, c'est 4 de plus qu'actuellement. Chacune de ces équipes va disputer 10 matchs lors du premier tour, encore 4 de plus chacun. Et pas de confrontation aller-retour, pensez-vous, ça ferait trop de dramaturgie qui pourrait intéresser les passionnés. Non, non, 10 matchs simples contre 10 équipes différentes, comme un championnat gigantesque à 36, sauf que vous ne jouez pas contre tout le monde. Vous m'avez perdu là ?
Oui.
Ouais, c'est normal, c'est un gloubi-boulga ce premier tour. On va juste retenir qu'à la fin, les 8 premiers se qualifient pour les 8e de finale et les 16 suivants se disputent les 8 places qui restent. On va traduire, on joue plus de matchs, donc les grosses écuries ont toutes les chances de s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, elles peuvent se rater sur 2 ou 3 rencontres et risquer l'élimination. Là, avec 10 matchs, le risque est bien bien dilué. Ouais, en fait, ça ressemble à la Super Ligue européenne dont rêvent les grands clubs. C'est bien ça le problème. En fait, l'UEFA n'agit plus pour le foot. Elle ne fait que réagir au projet des clubs les plus riches pour sauver les meubles. Ce sont eux maintenant qui décident de l'avenir.
Alors, je retiens quand même que la France aura non plus 3 mais 4 clubs en Ligue des Champions. C'est une bonne nouvelle, ça.
Pour faire quoi ? Pour servir de chair à canon au FC Barcelone ou à Manchester City ? Ça va ressembler un peu à ça. En plus, avec ces 10 matchs à disputer entre septembre et janvier, à part le PSG qui pourra jongler entre Europe et Championnat de France avec son effectif, les autres vont avoir du mal à jouer à fond les deux compétitions sur la longueur. Alors ils feront quoi ? Privilégier la Ligue des Champions et se contenter de limiter les dégâts en championnat ? Ou être juste contente de se retrouver face aux grosses écuries sans jouer vraiment et se concentrer sur la Ligue 1 ? La peste, le choléra, tout ça. Quand je pense qu'on se demande pourquoi le football intéresse moins le public aujourd'hui, il ne faut pas chercher bien loin. Ce genre de nouvelle formule tue l'esprit du jeu, gomme les incertitudes et ne cherche que le profit. Je ne sais plus qui disait qu'on voit de plus en plus de matchs et de moins en moins de football, mais ça me semble coller parfaitement à la situation.
Virginie Fulpin, l'édito sport, qu'en pensez-vous, justement de cette nouvelle formule ? Alors je sais qu'on va avoir des débats, qu'on sera en désaccord, qu'on va se bagarrer, et puis qu'un mardi soir ou un mercredi soir, ça repartira.
Tant qu'on ne remplace pas par Monet des Pink Floyd, c'est bien.
Très joli. Virginie Fulpin, l'édito sport, c'est tous les matins sur Europe 1, il est 7h26. Et comme tous les jours, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes du genre à ruminer dans votre coin, à vous faire des films, mais il y a une expression qui résume bien cet état d'esprit, c'est se monter le bourrichon.
Ah, quand on monte le bourrichon à quelqu'un, c'est quand on monte une personne contre une autre, c'est quand on se monte la tête.
Exactement. Et d'ailleurs, le bourrichon, je vais vous dire, c'est la tête. Qu'on se monte le bourrichon, la cafetière ou la carafe, cela désigne la tête. Le bourrichon, ça vient de la bourriche. Au XVIe siècle, c'est un panier plus long que large, tressé de façon grossière sans anse, servant au transport du gibier ou de la marée. On a tous en tête la bourriche d'huître.
Exactement.
En 1846, la bourriche devient en argot, à l'instar du caisson ou de la théière, ça devient la tête. Du coup, quand on monte la tête à quelqu'un, on lui fait prendre de la hauteur, de la valeur. La formule prend rapidement une tournure péjorative. On fait donner une valeur à quelque chose qu'elle n'a pas. Celui à qui on a monté le bourrichon ne va plus tarder à prendre ses vessies pour des lanternes. C'est Flaubert qui aimait utiliser l'expression, conscient qu'il fallait s'exalter soi-même pour devenir romancier. Il écrivait « Comme il faut se monter le bourrichon pour faire de la littérature et que bien heureux sont les épiciers ». Difficile de lui donner tort. Notez une expression que l'on utilise au Brésil pour dire la même chose, « imprégnar alguém pelo ouvido », devenir enceinte par les oreilles. Là, il est évidemment grand temps de dégonfler son bourrichon.
À 16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre avec Mathieu Noël.
Oui, alors on réunit l'as de la Grande Guerre, l'aviateur Charles Ningesser, le champion de boxe Marcel Cerdan, et le groupe de pop moldave Ozone. Vous savez ceux qui chantaient Nouma Noumaillé sur une aile d'avion.
Oui, je me souviens.
Leur point commun, ils ont été fauchés en plein vol.
Aïe.
Bon, les derniers sont toujours vivants. Je ne sais pas si ça vous rassure d'ailleurs.
16h-18h, c'est historiquement vôtre. Sur Europe 1. 7h28, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Allez, et la galère. Au hasard de mon enquête, il neige encore. Châteaudun, Laval, Angers, Rennes, Dinan, Orléans. Orly, Troyes, Saint-Dizier, Alençon, Chartres, Melun. Alors, dans ces villes ou autour de ces villes, ce sont encore des chutes neigeuses qui s'étaient calmées tout à l'heure et qui repartent de plus belle. Mais enfin, ça ne va pas durer puisque dans toutes les régions que je viens de citer, il y aura du soleil cet après-midi. Ça paraît complètement fou, mais c'est ça. Du soleil et des routes verglaçantes puisque le verglas sera toujours là, puisqu'il continuera à faire très très froid. Le froid est vraiment extraordinaire en ce moment, hein, entre moins 7 et plus 2 sur la moitié nord et entre 4 et 14 sur la moitié sud. C'est là où c'est extraordinaire, c'est que nous avons deux mondes différents qui s'opposent. Alors, j'ai noté quelques centimètres de neige. Au total, ce soir, nous aurons eu 2 à 5 centimètres sur l'Île-de-France avec des pointes à 10 centimètres dans le sud de l'Île-de-France. Nous aurons eu dans le Doubs, les Vosges, la Haute-Saône, l'Alsace, le territoire de Belfort, entre 10 et 12 centimètres. Sur les collines normandes, sur les côtes d'Armor, 10-15 centimètres. Dans Lyon, la Côte d'Or et l'Aube, 5 à 10 cm. Vous voyez que les chutes de neige sont quand même intéressantes dans la mesure où elles sont, disons, d'intensité modérée, mais il y a dessous le verglas et c'est ce qui rend la circulation complètement folle dans cette partie nord de la France. Dans le sud, je note quand même des pluies parce qu'il faut pour penser aux inondations. Je note des pluies en Charente, il pleut, mais il ne pleuvra pas, chers amis, vous qui êtes inondés, il ne pleuvra pas cet après-midi, vous aurez un temps beaucoup plus sec, même s'il est couvert. Sur le bassin méditerranéen, sera voilé et de la pluie en Aquitaine, il y en a actuellement. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans est un crime, sans qu'il ne soit plus question de consentement.
Nouveau crime de viol, seuil d'âge, prescription glissante. Le gouvernement dévoile ses pistes pour lutter contre la pédocriminalité. On décortique ses annonces dans ce journal. Nous serons à Pékin, où le coronavirus vient gâcher les festivités du Nouvel An chinois pour la deuxième année consécutive. Le procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert hier devant le Sénat, avec une performance mitigée de son avocat. Et puis le roi du fantastique, Stephen King, publie aujourd'hui son dernier roman, Si ça saigne, un recueil de 4 longues nouvelles en partenariat avec Europe 1.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Il est allé à la rencontre de ceux qui redynamisent la campagne. L'entrepreneur Nicolas Hazard publie Le Bonheur est dans le village. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous partons tout de suite en Chine, où l'ambiance devrait être à la fête, puisque la nouvelle année lunaire, celle du buffle de métal, démarre dans 2 jours. Je dis devrait, car une nouvelle fois, il va falloir faire une croix sur les réunions familiales et autres rassemblements.
Bonjour Sébastien Le Belzic.
Bonjour Mathieu.
En ligne de Pékin. Pour la deuxième année consécutive, la situation sanitaire pousse le gouvernement à imposer des restrictions.
Des lampions rouges ont été installés le long des rues, mais c'est à peu près tout. Pas de grande fête cette année encore pour le Nouvel An chinois. Le gouvernement appelle la population à rester chez elle et annule toutes les festivités. Cette Pékinoise se prépare à un réveillon bien morne.
En ce moment, il n'y a plus d'activité pour le Nouvel An. Avant, il y avait des fêtes dans les temples, mais là, tout est annulé. Je vais juste voir ma famille ici à Pékin et c'est tout.
Une centaine de nouveaux cas ont été détectés au début du mois à Pékin et dans les régions alentours. Depuis, des mesures très strictes ont été prises pour éviter la propagation du virus. 85% des Pékinois ont donc annulé leur voyage en province, comme l'explique ce couple de retraités.
Pour le Nouvel An, on va juste organiser un petit dîner en famille le soir. Et puis chacun va rentrer chez lui. On reste ici à Pékin, chez nous. Avec ma femme, nous allons sortir le moins possible. On fera juste un dîner demain soir.
Le Nouvel An chinois est généralement synonyme de la plus grande transhumance du monde. 3 milliards de voyages pour visiter sa famille. Et parfois, c'est le seul moment de l'année qu'ils peuvent passer ensemble. Mais l'épidémie a eu raison cette fois encore des festivités.
Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine. Et puis toujours pas de réponse concrète sur l'origine de la pandémie. Selon l'équipe de scientifiques de l'OMS en mission à Wuhan pendant 4 semaines, le virus pourrait d'abord avoir été transmis d'un premier animal à un deuxième avant de contaminer l'homme. En France, la barre des 80 000 morts a été franchie. Par ailleurs, 26 touristes français en voyage au Costa Rica ont été testés positifs au coronavirus. 6 d'entre eux ont dû être hospitalisés.
À la une également ce matin, c'était un engagement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le gouvernement clarifie sa position sur l'âge du consentement sexuel.
Et le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, l'a confirmé hier sur notre antenne. En dessous de 15 ans, un mineur ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec un majeur, Marion Dubreuil.
Oui, c'est le seuil retenu par le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. 15 ans, c'est l'âge de la majorité sexuelle en France. En dessous de 15 ans, Adrien Taquet ne veut plus qu'on interroge le consentement d'une victime de viol pour éviter les ratés du tribunal de Pontoise en 2018 avec une victime de 11 ans estimée consentante avec un adulte de 28 ans. Autre engagement du secrétaire d'État à l'enfance, la prescription glissante. C'est un mécanisme qui permet aux victimes mineures d'un même auteur de bénéficier de la même prescription. En clair, si une victime récente est identifiée et que son agresseur est poursuivi, les victimes de faits prescrits du même auteur pourront elles aussi obtenir un procès. Cela pourra faire la différence pour de nombreux plaignants dans des dossiers comme celui du chirurgien Joël Le Scouarnec, soupçonné d'avoir fait plus de 300 victimes entre 1986 et 2014. La procédure écarte aujourd'hui de nombreuses victimes à cause de la prescription. C'est aussi le cas dans des dossiers d'inceste, avec des différences de traitement judiciaire au sein d'une même fratrie.
À la suite de l'affaire Duhamel, le directeur de Sciences Po, Frédéric Millon, a présenté sa démission hier soir. Les étudiants de l'Institut d'études politiques lui reprochaient d'avoir nié d'être au courant des agissements d'Olivier Duhamel. Les élections régionales et départementales se tiendront les 13 et 20 juin prochains. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi de report de ces scrutins prévus en mars initialement.
À Washington, le second procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert devant le Sénat hier.
L'ancien président américain est accusé d'incitation à l'insurrection après l'attaque contre le Capitole le 6 janvier dernier. D'ailleurs, l'audience a débuté par la diffusion d'une vidéo choc qui retrace cette journée.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour à tous.
Après cette vidéo, les débats se sont concentrés sur la légalité du procès.
Oui, et juger un ancien président est bien conforme à la Constitution, c'est ce qui ressort du vote d'hier soir, 56 contre 44. 6 sénateurs républicains ont rejoint les démocrates après plusieurs heures de débat. Le président est responsable de ses actes jusqu'au dernier jour de son mandat, assure l'accusation démocrate. Sinon, c'est une invitation à ce qu'il s'accroche au bureau ovale et bloque la transition pacifique du pouvoir. Les avocats de Donald Trump ont de leur côté dénoncé un procès politique.
Ce procès est une tentative d'un groupe politique partisan cherchant à éliminer Donald Trump de la scène politique américaine et à priver de leur droit de vote plus de 74 millions d'électeurs américains.
Donald Trump est lui resté en Floride, frustré et mécontent de la performance de ses avocats, d'après la presse américaine, à la limite de crier sur ceux qui l'entouraient. Le procès reprend tout à l'heure à midi et les discussions porteront sur la responsabilité de l'ancien président. A-t-il incité à l'insurrection ? Si ces faits ne sont pas suffisants pour destituer, alors rien ne l'est, a conclu le procureur démocrate après la diffusion des images des violences du 6 janvier.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En France, pas de ramassage scolaire aujourd'hui dans les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne. En raison des chutes de neige, 31 départements de la Bretagne au Grand Est sont en alerte orange neige-verglas. La sortie aujourd'hui du nouveau Stephen King, 6 à saigne, en partenariat avec Europe 1. Un exemplaire de plus pour l'auteur américain qui a déjà vendu 400 millions de livres dans le monde.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Mathieu.
Alors ce livre, Si ça saigne, en comporte en fait 4.
Exactement. En fait, Stephen King est un graphomane. Il écrit jusqu'à épuisement. C'est que de son propre aveu, il a trop d'histoires à raconter. Voilà pourquoi il publie 4 grosses nouvelles ou 4 petits romans d'un coup. La première raconte l'histoire d'un vieil homme enterré avec son téléphone portable. Un jour, Craig, un jeune garçon qui s'était lié d'amitié avec lui, essaye d'appeler et il reçoit un texto en réponse. La deuxième est un modèle de virtuosité littéraire, la vie d'un homme, mais racontée à l'envers. La troisième donne son nom au recueil, Si ça saigne. Si ça saigne, l'info se vend. C'est le mantra de certains journalistes toujours au bon endroit, au bon moment pour couvrir une catastrophe. Un jour, Holly Gimney, une détective, a une intuition en regardant la télé. Il y a un truc qui cloche chez les journalistes de terrain. Et la quatrième, Ra, raconte l'improbable pacte entre un écrivain en manque d'inspiration et un rat. Tout fonctionne à la perfection. D'ailleurs, les droits des 4 nouvelles ont déjà été achetés pour des adaptations. C'est du pur Stephen King, même si, comme il l'écrit dans sa postface, ses histoires lui échappent. Elles vont où elles veulent.
Merci beaucoup Nicolas Caro, monsieur littérature d'Europe 1.
La Voix est libre, le dimanche à 14h. Je suis gentil de le mentionner parce qu'il est venu nous narguer avec le dernier Stephen King.
Je vous en donne.
Et on termine avec cette mission réussie pour les Émirats Arabes Unis qui ont placé leur sonde Hope en orbite autour de Mars. Les Émirats Arabes Unis qui deviennent ainsi le premier pays arabe à atteindre la planète rouge.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h15, tout à l'heure, Sonia Mabrouk reçoit Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Il publie « Le prophète et la pandémie » chez Gallimard. En temps de Covid et de confinement, qui n'a pas rêvé de campagne? Le tête-à-tête Europe Matin avec l'entrepreneur Nicolas Hazard. Il rend hommage à ceux qui dynamisent la France rurale. Il appelle les Français à quitter les métropoles, le modèle urbain. Tout de suite, la Toucham, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Si les salles obscures vous manquent, restez avec nous, je vous apporte une excellente nouvelle.
À tout de suite, il est 7h38. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous apportez une bonne nouvelle.
Exactement, si vous avez le moral dans les chaussettes qui ne vous tiennent pas vraiment chaud, vu le froid polaire qu'il fait, oubliez tout ça, bienvenue dans la roue des bonnes nouvelles. Vous avez envie de sourire, il suffit de demander. Mathieu, actionnez sans plus tarder notre roue des bonnes nouvelles. Oh, quel coup de main Mathieu, une poigne à faire pâlir Annie Pujol, on vous sent déterminé. Alors où la roue des bonnes nouvelles nous emmène-t-elle? Ah, vous tombez sur la case Nawak. On part au Pays Basque, à Anglet, et cette bonne nouvelle donc. Info France Bleu Pays Basque, le 22 février prochain, un cinéma d'Anglet va rouvrir.
Ah bah oui.
En voilà une bonne nouvelle. Bah oui. Attendez, j'avais pas lu jusqu'au bout. Un cinéma va rouvrir afin d'accueillir 70 étudiants pour faire court, faute d'amphithéâtre. Non, vous ne rêvez pas. Ah, j'aperçois Pierre Ninet et ses camarades acteurs râler. Comment vous dites? C'est du foutage de gueule. Bah, ça, c'est bien la France. Hein. Jamais content. Hein. Ça fait des mois que le cinéma français gueule parce que les salles sont fermées. On en rouvre à Anglette et vous êtes chonchon. C'est dingue, ça. Calmez-vous. Hein. Cette décision est le fruit d'une mûre réflexion dont la conclusion est, je pense, la suivante. Concernant les contaminations, ce ne sont pas les salles de ciné le problème, mais les films projetés. Bah oui, sinon on n'organiserait pas de cours à l'intérieur, réfléchissez un peu. Une classe masquée qui assiste à un cours de science, c'est pas pareil que des familles masquées qui regardent les Tuches 12. Ah, ça va pas vite là-dedans. Hein. Une bonne nouvelle qui en emmène une autre, nous sommes tous prêts pour participer au plus grand cabaret du monde. Alors regardez, ils sont géniaux, c'est des Français. Ils sont 67 millions et ils font un truc hyper impressionnant. Ils marchent sur la tête. Ouais, c'est pas évident et pourtant ça fait des mois qu'ils tiennent. Putain, ils sont géniaux. Ainsi s'achève notre roue des bonnes nouvelles. Oui. Mathieu, vous ne repartez pas les mains vides, vous remportez ce magnifique fusil qui vous permettra de chasser après le couvre-feu en Indre-et-Loire entre 18h et 6h du matin. Comme autorisé par la préfecture depuis hier. Si, monsieur.
Ah, je suis passé à côté de ça.
Eh oui, à très vite pour une autre roue des bonnes nouvelles.
Je suis pas sûr. Merci Bertrand. Bertrand Chamerois à la Toucham tous les matins à 7h40 et à 10h également avec Philippe Vandel dans Culture Média. 7h41.
Europe Matin, le 7-9.
Vous êtes sur Europe 1. Il est diplômé de Sciences Po, d'HEC. Il est entrepreneur. Le journal Sud-Ouest, je le lisais, l'appelle le Golden Boy de la finance sociale. Nicolas Hazard s'est donné pour mission d'encourager les Français à quitter la ville, la métropole, à redynamiser les campagnes, les zones rurales. Il publie « Le bonheur est dans le village » et c'est chez Flammarion.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Nicolas Hazard.
Bonjour.
Alors c'est un appel que vous lancez finalement, le bonheur est dans le pré, mais sous conditions. Vous voulez redynamiser les villages, les zones rurales. Vous reconnaissez qu'il y a du travail hein, justement pour redonner leur attractivité à ces régions françaises. Il faut se retrousser les manches.
C'est le point de départ. Et surtout, c'est démontrer qu'en fait, il y a des solutions qui existent aujourd'hui aux différentes crises qu'on est en train de connaître. Et que ces solutions, généralement, bah, elles viennent aussi de la campagne, des villages, de la ruralité. Et c'est de montrer qu'il y a des exemples très concrets et que ceux qui veulent changer le monde, ceux qui veulent se prendre en main, leur destin, développer des choses pour l'écologie, pour le monde de demain,
c'est possible,
ils peuvent le faire.
Et c'est viable. C'est ce que vous démontrez dans le livre avec 30 portraits, 30 histoires, 30 témoignages. Votre point de départ, c'est cette envie des urbains de s'isoler à la campagne. Alors on en a beaucoup parlé avec le confinement. Il y a un problème, vous dites, avec le modèle urbain.
Exactement, il y a un problème avec la concentration dans les métropoles. Aujourd'hui, on a l'impression que toutes les richesses sont attirées dans les métropoles et qu'on investit massivement dans ces grandes villes. C'est là où il y a du boulot, en gros. Et pourtant, on passe à côté d'une grande partie de notre territoire qui, lui, ne demande qu'à se développer, qui offre une qualité de vie aussi qui est très importante. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on peut aussi réussir, être heureux, quand on vit à la campagne, et faire des choses et des choses utiles.
Alors c'est un peu réducteur, mais vous soulignez que les enjeux de demain, je fais un peu plus court, un peu plus simple, ce sont l'énergie et l'alimentation. Et tiens, je prends un exemple quand même, qu'on parle un petit peu de ces initiatives, avec Jean-Luc, qui est maire de Luc-sur-Aude, et qui est un village autonome en énergie. 287 particuliers, ils sont autonomes en énergie.
Exactement, ils ont décidé à un moment, il y a quelques années, d'être autonomes en énergie, donc ils ont construit un parc solaire à Luc-sur-Aude. Et ils ont tous participé, ils ont tous mis la main à la poche. Même le plus jeune, Zachary, qui a 11 ans, qui lui-même a cassé sa tirelire pour créer ce parc solaire. Et aujourd'hui, ils sont autonomes en énergie.
Alors, on est sur un investissement autour de 10 000 euros par personne dans le village.
Ça dépend, hein. C'est des tickets qui peuvent aller
moyenne,
de...
Mais...
Voilà, exactement. Et en gros, ils ont mis tout leur argent qu'ils avaient sur des différents comptes. Et aujourd'hui, ce parc solaire, il rapporte plus qu'un livret A. Donc c'est à la fois bénéfique d'un point de vue environnemental et en plus c'est rentable.
Ils sont autonomes en énergie, c'est meilleur pour l'environnement et c'est un produit d'épargne, c'est important de le souligner. On a envie de campagne peut-être, sauf qu'aujourd'hui les opportunités elles sont à la ville. Aujourd'hui si on cherche du boulot, si on est jeune, qu'on veut même poursuivre après ses études, ça se passe en ville.
Exactement, et bien c'est exactement ça le problème justement. Et avec ces histoires-là, ces 30 histoires, c'est de démontrer qu'il est possible de dessiner un autre futur et un futur qui est à la campagne, dans la ruralité. Il faut savoir que pour 80% des Français, la vie à la campagne est le mode de vie rêvé par rapport à la ville.
Alors, je voudrais vous opposer ce que me disait une spécialiste de ces questions de ruralité et de jeunesse en particulier, Salomé Berlioux, qui était sur Europe 1 le soir cette semaine. Elle me disait, ce qui est amusant, c'est qu'on a tous eu envie de campagne pendant le confinement, mais que ce qu'on voyait, c'était la France des vacances. On voyait la plage, on voyait la montagne, on voyait les jolies régions françaises. On ne voyait pas les zones rurales dans le dur au mois de février, là où on est en ce moment.
Ben bien sûr, Salomé, c'est une des 30 histoires d'ailleurs de ce livre. Bien évidemment, il y a des réalités qui sont... la campagne, ce n'est pas le mode de vie idéal, ce n'est pas le pays des bisounours en gros. Mais il y a quand même des possibilités, il y a des chemins qui existent. Et donc, il y a des gens qui sont accrochés et qui ont réussi pour autant. Alors certes, ce n'est pas facile et il faut pouvoir investir massivement dans les services publics, rouvrir des commerces, recréer du dynamisme sur certains territoires abandonnés. Mais pour autant, c'est possible de le faire, il y a des solutions.
Ce qui est très important dans votre livre, et c'est important de le souligner ce matin, c'est que dans cette installation à la campagne et dans cette dynamisation de certaines zones rurales, on va retrouver de l'artisanat, des métiers du soin, des métiers qui sont dévalorisés à la ville et qui sont extrêmement précieux aujourd'hui dans ces régions-là. Je voudrais emmener nos auditeurs à présent en Dordogne, à Saint-Pierre-de-Frugy, 384 habitants. Comment ce village de 384 habitants est-il devenu un point d'attraction, y compris touristique?
Gilbert, concessionnaire à Périgueux d'automobile, est devenu maire en 2014 et il a décidé, 2008 d'abord et ensuite 2014, et il a décidé de faire le premier village bio de France. En gros, ça veut dire quoi? Il a arrêté de mettre des pesticides dans le cimetière, dans les rues. Il a créé des jardins partagés, etc. etc. Et donc ce petit village qui est très enclavé dans la vallée de la Dordogne est finalement devenu une attraction non seulement en France mais dans le monde aussi. On vient du Japon même pour visiter ce village, qui est ce premier village bio. Et là où ils avaient fermé les écoles, il n'y avait plus de commerce, maintenant il y a des commerces, il y a un restaurant, une école a ouvert, un collège aussi, et donc il a redynamisé son village et les alentours.
Rochefort-Montagne, c'est dans le Puy-de-Dôme. Je vais exprès, évidemment, je cite le nom de ces communes qu'on cite assez peu dans les médias nationaux. Rochefort-Montagne, ce sont 894 habitants. Et là se pose avec Thomas la question des transports.
Exactement, la mobilité c'est un des points vraiment très très compliqués, en tout cas quand on est dans la ruralité.
Et particulièrement, je rappelle notre engagement sur Europe 1 solidaire avec la jeunesse. Vous avez 18 ans et vous devez travailler, vous n'avez pas encore le permis, ça peut être parfois très compliqué en zone rurale.
Exactement, et donc là l'idée c'est, les VTC en règle générale, ils n'ont pas forcément de service pour les zones rurales. Et donc Thomas, lui il a inventé Ecov, une boîte qui entre, on va dire, le stop organisé et le covoiturage, où en fait ce sont des bornes fixes qui sont notamment dans des villages, et où on va à la borne et on peut voir qui se connecte sur son trajet. Et on attend à cette borne-là et on est après accompagné, on fait du covoiturage avec des personnes.
C'est-à-dire que ma voiture, à moi, celle du particulier, devient un transport collectif.
Exactement.
On est entre le Blablacar et le réseau traditionnel.
Et le stop même.
Et le stop, oui, pour les plus anciens. Alors, ce sont 30 histoires qui marchent, 30 histoires qui vont attirer votre attention. Alors, pas que des Parisiens qui vont s'installer à la campagne. Ça, c'est important parce que, disons-le franchement, dans les zones rurales, les Parisiens qui sont venus boboiser avec le terme néo-rural les régions qui étaient abandonnées pendant de longues années, on les attend un peu venir.
Exactement, non, surtout pas, c'est pas un livre sur les bobos qui vont à la campagne et qui découvrent que c'est absolument extraordinaire d'être dans la nature, non pas du tout. C'est des histoires, effectivement il y a des gens qui vont de métropole et qui vont dans la ruralité, qui créent des choses, mais la majeure partie des histoires c'est des gens qui sont dans les territoires ruraux, qui sont nés, qui ont grandi et qui ont développé des choses, des activités, des solutions.
Oui, avant de penser au retour des urbains vers la campagne, pensez déjà à garder les habitants des zones rurales là où ils vivent et là où ils veulent vivre, parce que parfois on ne mesure pas toujours hein, la réalité aussi de ce que c'est la campagne. Au bout d'un certain temps, on met 3 mois à avoir un rendez-vous chez le dentiste, on essaye péniblement de capter la 3G. Je parle même pas de la dépendance à la voiture, on a évoqué le covoiturage, c'est pas non plus tout rose.
Exactement.
Faut pas non plus en dépeindre un portrait absolument magnifique.
C'est pas tout rose, et justement il y a des choses à faire, c'est-à-dire là vous mettez le point sur quelque chose de très important qui la 3G, la 4G plutôt aujourd'hui, parce que même avec de la 3G aujourd'hui on fait quasiment plus rien.
Pardonnez-moi, je pense à certains qui nous écoutent et qui doivent s'agacer de nous entendre débattre de la 5G.
Ah, ben alors
qu'on moi, la 5G, c'est très simple.
Alors, exactement. Moi, j'adore le débat sur, en fait, la 5G, on est des Amish ou on n'est pas des Amish. Mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans plein de zones rurales, on vit déjà comme des Amish, parce qu'avec de la 3G ou avec de la Edge, en fait, on ne fait rien. Et on ne peut pas développer une activité, on ne peut pas développer un business, on ne peut pas être connecté. Et donc, aujourd'hui, la grande priorité pour moi, avant de parler de la 5G, qui est un vrai sujet, hein, c'est quand même d'aller connecter tout le monde à la fibre et tout le monde à la 4G et qui a une vraie égalité, en tout cas numérique.
Alors on va terminer par une dernière histoire, ce sera le mot de la fin. Racontez-nous comment Michel, qui est maire dans le Cantal, a réussi le tour de force de doubler sa population, la population de sa commune en quelques années seulement.
Michel, sa commune qui est parlant dans le Cantal, l'école doit fermer. Il se dit, il faut que j'ai plus d'enfants pour pouvoir continuer à maintenir cette école. Et donc, il décide de reprendre des terrains, de préempter des terrains et de les donner pour 1 € à des familles qui viendraient s'installer, des familles avec enfants. C'est 1 € quand on vient. Si on part avant 10 ans, on repaye le terrain au prix normal, on a une pénalité. Et donc, grâce à ça, le village il a redoublé de taille. Il y a des familles qui sont venues s'installer. Il y a de l'activité économique aussi qui s'est créée. Aurélie, par exemple, fait partie d'une des premières qui est venue s'installer à Parlant. Elle a ouvert un salon de coiffure, elle a créé 3 emplois. Il y a une boulangerie qui s'est rouverte. L'école continue, elle a grossi. Et Parlant, du coup, est redynamisé grâce à cette initiative.
Un cercle vertueux, et vous en trouverez d'autres dans Le Bonheur et dans Le Village. 30 solutions qui viennent de nos campagnes chez Flammarion. Nicolas Hazard, merci beaucoup.
Merci à vous.
On a respiré un peu ce matin, un peu de perspective aussi. Vous verrez, hein, tout n'est pas rose, mais il y a des solutions, et des solutions viables. C'est important de le souligner. 7h52 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le vote aujourd'hui autour de la loi climat, le piège de la fin du quinquennat. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou dans une minute. 7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le Conseil des ministres examinera ce matin le projet de loi issu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat.
Oui, un texte issu, ou plutôt dérivé, des propositions de ces 150 Français tirés au sort et tous devenus des fans de l'écologie. Dérivé parce que, fort heureusement, les 65 articles du projet de loi seront beaucoup plus équilibrés, beaucoup moins jusqu'au boutiste que les propositions initiales de la Convention. À condition, bien sûr, que le texte qui sera adopté tout à l'heure ne soit pas dénaturé lors de son passage à l'Assemblée.
Dénaturé, parce qu'il y aura beaucoup d'amendements ?
Ah ben c'est à prévoir, oui. D'abord parce que c'est devenu le passe-temps favori des députés. Il y a eu 1878 amendements à la loi sur le séparatisme. Et donc sur le climat, sujet universel, chacun va pouvoir y aller de sa petite idée sur la 5G ou le glyphosate, par exemple. Les groupes de pression, les lobbies écolos qui avaient trouvé un terrain tellement manœuvrables auprès de la Convention citoyenne, vont revenir à la charge pour reverdir le texte. Les grandes voix et les belles consciences du militantisme environnemental se sont d'ailleurs déjà mobilisées pour dire que ce texte n'était pas assez ambitieux. Les amendements vont donc se multiplier comme autant de procès en timidité intenté à Emmanuel Macron. Voilà, ça c'est pour les attaques à venir de la gauche.
Et je suppose qu'il y en aura aussi en provenance de la droite.
Mais bien sûr, par exemple de la part de tous ceux qui s'inquiètent des surcoûts que certaines mesures sur le logement, les transports, l'énergie vont infliger aux familles. Et tout le monde aura en tête le redoutable précédent de la taxe carbone et des gilets jaunes.
Alors, tel que vous le présentez, tout ça ressemble à un piège pour la majorité.
Absolument. Un piège dans lequel Emmanuel Macron s'est mis tout seul. C'est lui qui a voulu cet exercice de démocratie directe avec la Convention citoyenne. C'est lui qui, pour éviter de les affronter, leur a promis monts et merveilles. Eh bien, c'est lui qui doit maintenant, dans une sorte de deuxième round, affronter la démocratie parlementaire, cette fois, sur un sujet où les surenchères à gauche et où les corrections à droite ne vont pas manquer. Et le pire, c'est que plusieurs bombes pourraient être posées par des parlementaires de sa propre majorité. C'est donc un moment important du quinquennat, celui où le probable futur candidat à sa réélection va tenter de coudre bien solidement sur son costume de président sortant ses médailles de bon soldat de la cause environnementale, et cela sous la mitraille de ceux qui pensent qu'il n'en fera jamais assez et de ceux qui assurent qu'il en fait toujours trop. Vous voyez, Mathieu, il y a des moments où c'est vraiment une fâcheuse posture que celle du « en même temps ».
Votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.